Alors, voilà, c'est tout bon. Bienvenue officiellement, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce culte. Une bienvenue toute particulière à Romy, voilà, qui ne m'entend pas, et c'est OK. À ses parents, Kim, Laurent, à toute la famille, les amis qui sont venus pour cette présentation d'enfants que nous vivrons tout à l'heure. Soyez vraiment les bienvenus. Soyez aussi les bienvenus, vous qui nous regardez en ligne, que ce soit sur les chemins de Compostelle, nous savons de qui nous parlons, ou à la plage. On ne vous juge pas, mais on vous envie un petit peu quand même hein, ce matin. En tout cas, il fait bien assez chaud ici aussi pour aller à la plage. Voilà, soyez vraiment à la maison ce matin, ici à l'église évangélique de Mérin. Une annonce, et tu peux mettre le slide. Des annonces ou de l'annonce. En fait, mon annonce va être simple, c'est que j'aimerais vous rappeler comment on communique à l'EM, quels sont les différents moyens de rester au courant de ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que voilà, je gère la plupart de ces choses et on nous pose souvent des questions. Les gens ne sont pas encore assez informés. Donc je me dis, c'est quand même pas possible avec tout ce qu'on communique, qu'il n'y ait pas les informations qui passent. Donc voilà, quatre moyens de rester informé. Le premier, c'est l'Actu Mérin. Et c'est vraiment là qu'il y a le plus d'informations. Okay? Donc si vous voulez avoir le pack complet, il faut vous inscrire à l'Actu Mérin. C'est un email qui est envoyé, pas très souvent, hein, on n'en envoie pas hein, toutes les semaines, peut-être une à deux fois par mois, ça dépend un petit peu de l'actualité de l'Église. Donc on essaye de ne pas vous en envoyer trop. On sait qu'on en reçoit déjà trop de manière générale à la maison. Mais voilà, on vous incite, on vous encourage à vous inscrire à l'Actu Mérin si ce n'est pas déjà fait. Mais j'y viens, j'y viens. Si vous n'êtes pas inscrit et que vous désirez le faire, là-bas derrière, vous voyez, il y a un papier qui est accroché contre le truc de la sono. Et puis, il y a un code QR. Alors, de nouveau, hein, peut-être que vous ne savez pas comment ça marche, mais il y a plein de gens qui savent comment ça marche. Renseignez-vous, demandez, je vous aide volontiers. On scanne ça avec le téléphone et puis on peut s'inscrire facilement pour recevoir l'Actu Mérin. Même chose pour le groupe WhatsApp. Sur le même petit panneau là derrière, on peut aussi s'inscrire au groupe WhatsApp. Alors de nouveau, on se dit, ouh là là, non, non, non. Déjà, WhatsApp, ça m'énerve. Ils pompent tous mes données. En plus, je reçois 15 000 messages chaque jour. Bon, nous, on essaye d'y aller gentiment. C'est en général un message par semaine max. Mais ça nous sert aussi à corriger le tir à la dernière minute si besoin. Chose qui est moins possible avec le mail. Déjà, c'est plus de travail. Et puis, voilà, les gens lisent peut-être moins fréquemment leurs emails. Donc, si on s'est trompé dans une date, qu'on veut corriger, voilà, l'heure d'un rendez-vous, ben, on peut le faire rapidement avec WhatsApp. Mais tout le monde ne reçoit pas l'info. Hein. Donc, voilà. Si vous voulez la totale, il faut être dans les deux. Mais privilégiez l'Actu Mérin, encore une fois. Ensuite, il y a toujours le site web. Si vous avez une question, vous avez peut-être entendu une annonce, vous avez vu quelque part qu'il y avait un événement, mais vous ne vous souvenez plus à quelle heure c'est, quand ça a lieu, tout est sur le site web, sur la page agenda. Barbara Jeunecamp, qui fait un super travail, met à jour l'agenda. Donc voilà, normalement, tout y est. Si vous avez une question, vous pouvez aussi aller regarder sur la page agenda du site web. Et puis finalement, on a encore un programme papier. Oui. Car nous sommes une église multigénérationnelle, donc il en faut pour tout le monde. Normalement, les programmes auraient dû arriver ce matin, mais je n'ai pas encore vu. Ils sont là? Ok, super, magnifique. Donc voilà, vous les trouverez à la sortie, les programmes papier. Pour ceux qui aiment encore ce format-là, vous pouvez en prendre un à la maison. Et vous aurez le programme juillet-août pour tout l'été. Voilà. Et si malgré tout ça, vous avez encore des questions, ben, vous venez nous voir, vous nous écrivez, vous nous appelez. Et on y répond volontiers. Mais je vous encourage vraiment. Voilà, en tout cas, l'Actu Mérin, c'est une valeur sûre pour recevoir toutes les infos concernant l'Église. Je n'avais pas prévu de faire d'autres annonces ce matin, mais je vais quand même juste parler des cultes de l'été, parce que vous savez, des fois, on part du principe que tout le monde sait comment ça se passe, puis on oublie qu'il y a des gens qui nous rejoignent régulièrement et qui, voilà, connaissent peut-être pas certaines des habitudes que nous avons. Donc, tous les étés, on a des cultes en commun avec la paroisse protestante de Mérin. Et ça veut dire, enfin ça veut dire. Et nous faisons nos cultes en alternance. Donc un dimanche sur deux, on est ici, un dimanche sur deux, on est au CEPOM, le centre paroissial œcuménique de Mérin. Chaque fois, je dois réfléchir un peu pour le dire. Quand il y a le culte là-bas, il n'y a rien ici. Et quand il y a le culte ici, il n'y a rien là-bas. Donc voilà, soyez bien au courant de où est le culte si vous venez, pour ne pas vous tromper d'endroit. Et si vous voyez qu'il n'y a personne ici, c'est que c'était sûrement là-bas. Et puis, comme on l'a dit dans l'Actu Mérin, il y a un programme pour les enfants chaque dimanche, que ce soit ici ou au CEPOM. Les deux cultes ont lieu à 10h, ça ne change pas. Et vous êtes les bienvenus, que ce soit au CEPOM ou ici. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si malgré ça, il y a des questions, venez nous trouver après le culte. Je dis aussi encore peut-être qu'à la fin de ce culte, il y aura un apéro. Je pensais le dire à la fin, mais pour ceux qui s'échappent vite avant la fin, sachez qu'il y aura un apéro qui sera préparé là-dehors. Donc ne partez pas trop vite, ça serait dommage. Merci. Oui, il y a ma fille qui dit déjà merci. On a pensé à toi, Lily. Je pensais ne pas avoir besoin de ma deuxième feuille, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année scolaire. Est-ce qu'il y en a qui étaient au courant de ça? C'est les vacances, l'école, c'est bientôt fini. Enfin, ouais, pas tout à fait encore, hein, mais ça sent déjà fortement les vacances, on est d'accord? Oui, pour toi, c'est déjà les vacances. Il y a des chanceux parmi nous qui sont déjà en vacances depuis une semaine, en fait. Tu peux mettre la slide du petit texte que nous trouvons dans la lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 à 18. Nous lisons ceci. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Pas facile, n'est-ce pas? Ou bien? Il y en a qui râlent des fois. Oui, ça arrive. Bon, c'est facile, en fait, quand les choses vont bien, n'est-ce pas? Quand tout va bien, on a de quoi être reconnaissant. Alors, est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on l'exprime? Ça, c'est autre chose, mais c'est plus facile. Quand les choses vont moins bien, ah ben là, tout de suite, c'est plus difficile, n'est-ce pas? En Suisse, on râle souvent, j'ai remarqué. Alors, on n'est peut-être pas les champions, mais on est pas mal, et en particulier dans deux domaines. Dans les transports publics et la météo. Moi, j'ai remarqué ça. Puis maintenant, à chaque fois, j'entends quelqu'un qui râle à ce propos. Ça, voilà, ça me marque. Hein, au lieu d'être reconnaissant du fait qu'on a un des meilleurs systèmes de transport public en Suisse, on arrive encore à râler tout le temps. Ça passe même au téléjournal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est fou. Hein, la RTS, elle parle régulièrement des trains qui sont 2 minutes en retard, avec les gens au bord qui disent « oui, quand même, c'est pas... Hein ». Je me dis « mais c'est fou ». Allez voir comment c'est ailleurs. Voilà, il y en a qui attendent des fois une demi-journée pour qu'un bus arrive. Hein. Je l'ai vécu dans certains pays. Mais on se plaint. On se plaint, on est tellement habitué à ce que ça marche bien que quand ça marche un tout petit peu moins bien, on se plaint. Soyons reconnaissants. Et puis la météo. Alors la météo, on se plaint quand il fait trop chaud, on se plaint quand il fait trop froid, on se plaint quand il y a de la pluie, on se plaint, en gros. Hein. J'ai rarement entendu dire quelqu'un « waouh ». Merci pour la pluie. Pourtant, la pluie dans la Bible, en tout cas, c'est une bénédiction. Hein. Alors, quand il y en a trop, c'est sûr, ça peut causer des problèmes, mais c'est rarement le cas ici. La plupart du temps, c'est une bénédiction. Demandez à toutes les personnes qui travaillent la terre dans cette communauté. On est content quand il pleut. Quand il ne pleut pas, c'est vraiment problématique. On a besoin de tout. On a besoin de la pluie, on a besoin du soleil. Soyons reconnaissants. Et parfois, ça nous embête un peu. Ah ouais, j'avais prévu un barbecue. Dieu n'a pas répondu à mes prières. Oh là là, c'est embêtant. Soyons reconnaissants. Il y a des choses plus importantes que nos petites activités. On peut choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est un choix, vraiment. Donc, choisissons de voir le verre qui est à moitié plein, et souvent plus que la moitié. On peut râler quand le train est en retard 2 fois par année ou on peut être reconnaissant parce que la plupart du temps, il est à l'heure. On peut râler quand il pleut ou être reconnaissant pour la nature et les champs qui sont arrosés gratuitement et sans effort. La reconnaissance, c'est un petit peu comme un muscle. Il faut s'entraîner. Il y en a qui vont à la salle de gym ou qui font du sport. Au début, ça fait mal, c'est pas facile, mais plus on le fait, plus ça va. La reconnaissance, c'est la même chose. Il faut s'entraîner. Plus on est reconnaissant, plus c'est facile d'être reconnaissant. Voilà. Soyez reconnaissant en toutes circonstances, nous dit la parole. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas râler? Est-ce qu'il n'y a pas des injustices, des choses contre lesquelles on doit se plaindre? Oui, bien sûr. Et la parole nous montre qu'il y a plein de personnages bibliques qui l'ont fait, qui le font, et on doit élever notre voix contre certaines choses dans ce monde. Il y a des injustices. Mais après ça, soyons reconnaissants. C'est ce que David fait souvent. Quand on lit les psaumes, il déverse son cœur devant Dieu, il dit « c'est pas juste, je suis attaqué, il y a ci, il y a ça ». Puis après, « mais Seigneur, tu es Dieu, et tu es grand, et tu prends bien soin de moi ». Et il finit sur une note de reconnaissance. Et je crois que c'est un encouragement pour nous à faire de même. Alors, j'aimerais vous inviter juste 2-3 minutes à faire quelques prières de reconnaissance. On ne va pas faire trop long, on a un programme déjà bien chargé. Si quelqu'un sont d'accord de le faire, on va regarder à cette année écoulée, cette année scolaire, et puis on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette année, peut-être hier, peut-être ce matin, peut-être il y a quelques mois, et puis juste dire merci Seigneur pour ça. Il y a plein de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Élevons nos voix juste quelques instants pour cela, s'il vous plaît.
Moi, j'aimerais te dire merci pour la belle saison que nous avons vécue avec le KT et le groupe de jeunes. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour les relations qui sont tissées. Merci pour la confiance, pour les envies, les projets. On te dit merci de nous avoir accompagnés comme tu l'as fait. Amen.
Amen. Seigneur, j'aimerais te remercier pour les amitiés qui grandissent et s'approfondissent.
Seigneur, je suis infiniment reconnaissante. Et comme le dit un cantique, tu es fidèle et tous les jours je peux compter sur ton amour.
Amen. Soyons dans la reconnaissance. Il y a encore une personne qui est absente ce matin, mais qui voulait exprimer sa reconnaissance, en particulier pour ce qui a été vécu dans le cadre du catéchisme. C'est Rebecca, ma femme, et elle nous a préparé une petite vidéo. On va l'écouter et la regarder.
Bonjour tout le monde. J'aurais bien voulu être là avec vous ce matin, mais ce n'est pas possible car je suis en voyage missionnaire à ce moment-là, en Nigeria. Mais je veux quand même pas louper cette occasion de vous parler un peu de ce que nous avons vécu pendant cette année scolaire, pendant le KT. Nous avons regardé plusieurs thèmes, entre autres on a commencé avec Dieu et sa parole, de ce que lui nous dit dans la Bible, et après on est passé à Dieu et la création, la chute et les conséquences qui venaient avec ça. Et j'ai beaucoup apprécié ces vendredis soirs avec les jeunes, de voir les amitiés qui se sont créées, les questions qui se posent, et de voir les cerveaux qui commencent à parfois même fumer, on avait l'impression, et de voir les questions qui surgissaient pendant le soir, pendant les discussions. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont là ce matin, mais pour ceux qui sont là, je voulais vraiment vous dire merci d'être là. Merci pour les moments que je peux passer avec vous. J'ai beaucoup plaisir d'être avec vous les vendredis soirs, de discuter avec vous, de faire connaissance de plus en plus avec vous. Et je me réjouis de vous revoir après l'été. Profitez bien, reposez-vous bien et on se voit fin août pour la première session de la nouvelle année scolaire. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt.
Voilà, vu que c'est ma femme, j'ai le droit de me moquer un petit peu. Et elle était au courant. Ok, on va maintenant rester dans un esprit de reconnaissance pour la présentation de la petite Romy. J'invite Philippe à me rejoindre pour ce temps. Avec son micro, merci.
Avec le micro. Merci Thierry. Bonjour à chacun, à chacune, heureux d'être avec vous ce matin. Heureux particulièrement d'être avec Kim et Laurent et la magnifique petite Romy. Et puis les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'est pas rien, il y a une belle brochette devant moi et je vous salue aussi et vous remercie de nous faire l'amitié d'être là. Je crois qu'il y a aussi la sœur de Laurent qui est là avec son garçon. Bienvenue à toutes et tous. Une présentation d'enfant, ce matin, de la petite Romy. C'est quoi le sens de ce geste? Parce que c'est bien de faire des trucs, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière le truc. Sinon, on encourage des mythes. Si Dieu est Dieu, ne connaît-il pas déjà Romy? A-t-il vraiment besoin qu'on la lui présente? A-t-il besoin, Dieu, d'être informé? Il faut dire quelques mots quand même du contexte biblique de la présentation d'enfants. Dans l'Ancien Testament, on remonte donc à 5, 6 000 ans, dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré un rite par lequel on marquait son appartenance au peuple de Dieu. On marquait sa confiance en Dieu. Ce rite, c'était celui de la circoncision. Circoncision, elle consiste à ôter un bout de peau qui recouvre le prépuce. Et ce geste, il est instauré en commandement dans le premier livre de la Bible, Genèse 17. Puis, il y a une deuxième étape, un peu plus tard, en Exode 13, verset 2, où on découvre que c'est le mâle premier-né qui est consacré, qui est présenté à Dieu. Et c'est donc en application de cette loi de l'Ancien Testament que Jésus, lui, quand on arrive au Nouveau Testament, est consacré, présenté à Dieu, quelques jours seulement après sa naissance, nous dit l'Évangile de Luc. Cela dit, le rite de la circoncision, le rite de la présentation, était somme toute relativement restrictif, puisque seuls les garçons étaient circoncis à l'âge de 8 jours, et encore le garçon premier-né, puis présenté au Seigneur. Puis quand on arrive au Nouveau Testament, hormis ce qui se passe avec Jésus et ses parents, il n'y a aucun texte qui rapporte que ce rite de la présentation, consécration, ait été répété dans l'Église primitive. Pourquoi? Alors pour faire court, parce qu'avec la venue de Jésus, il n'est plus jamais question d'une marque dans la chair, d'une circoncision de la chair. Avec la venue de Jésus, il est question de la circoncision du cœur, de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et avec la venue de Jésus, on reprend contact avec Dieu par la foi, en vue de la vie, de la belle, de la grande vie. Et cette reprise de contact avec Dieu, c'est un choix personnel. C'est pas quelque chose qu'on peut s'imposer les uns aux autres, y compris dans une famille. Dès lors, dès le Nouveau Testament, le geste visible qui accompagne ce changement de cœur, ce changement des intérieurs, le signe visible qui l'accompagne, c'est le baptême. le baptême qui est un choix personnel, le baptême qui engage, le baptême qui mouille au propre comme au figuré et qui doit être fait en toute connaissance de cause par des personnes à même de mesurer les causes et les conséquences de leur choix. Il faut savoir ce qu'on se veut. Alors en quoi consiste le geste de présentation ? Parce que c'est bien ce qu'on va faire. Le geste de présentation que vous faites ce matin, Laurent et Kim. On va vous entendre dans quelques instants, parce qu'en plus d'être vraiment chouette, vous avez le courage de prendre la parole. On va vous entendre dans quelques instants. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce geste, il vous concerne, vous, autant que Romy. Et vous nous y associez, ce qui est à la fois un immense privilège et une grande responsabilité. Il y a un proverbe populaire qui date de bien avant les politiques de reforestation qui dit ceci: une génération plante des arbres, une autre en retire de l'ombre. Une génération plante des arbres, une autre en retire de l'ombre. Nous, ce matin, nous vivons à l'ombre de nombreux arbres plantés par ceux et celles qui nous ont précédés. Beaucoup de nos parents avaient des normes éthiques, des normes spirituelles. Leur perception du bien et du mal, leur sens du devoir, leur valeur, et pour plusieurs d'entre nous, leur amour pour Dieu, leur consécration, leur fidélité à Dieu. Leurs idéaux ont façonné notre vie, comme nos idéaux vont façonner au moins pour une part la vie de nos enfants. Alors la question à laquelle nous devons essayer de répondre en tant que parents, aujourd'hui, c'est de savoir si nous pouvons planter des arbres qui protégeront les générations futures et à l'ombre desquelles ces générations futures vont pouvoir grandir. Et vous êtes, vous, parents, d'un petit enfant encore. C'est un petit bout, Romy. Vous êtes devant un défi qui est immense. J'ai l'impression de me retrouver il y a 25 ans en arrière, quand je tenais ma fille pour la première fois dans les bras. Le défi, il est immense. Vous êtes chargé d'amener Romy à l'indépendance, à la capacité de s'autodéterminer, de faire des choix en toute connaissance de cause, d'exercer la grande liberté qui est la sienne. Et vous êtes chargé de lui filer les clés. C'est un truc de dingue. Il faut un courage fou pour mettre des enfants au monde aujourd'hui et les conduire à la maturité. Et bien sûr, vos cœurs désirent plus que tout que Romy vive une belle vie, cohérente, conséquente. Une de ces vies sans grave dommage, avec de beaux accomplissements, de belles découvertes. Le monde est à elle. Et par ce geste, avec vous, nous voulons demander à Dieu de veiller sur Romy. C'est tendu le monde, hein ? C'est compliqué. Les défis écologiques, la géopolitique. On se réveille un dimanche matin, les États-Unis sont en guerre. C'est compliqué le monde. Les tensions entre hommes et femmes. C'est compliqué le monde. Alors nous voulons demander à Dieu de veiller sur Romy, de lui donner une communauté familiale et peut-être plus que ça pour lui offrir des racines et des ailes. Une colonne vertébrale pour sa vie dans un monde complexe. Un cœur attentif à Dieu, j'espère. Un cœur attentif aux autres. Verticalité, horizontalité. Et sans aucun doute possible, connaissant Dieu un peu, je crois que Dieu peut le faire. Veiller sur sa vie, lui donner un cœur généreux, Dieu peut le faire. Dieu peut vous aider et peut-être que nous, ensemble, nous avons aussi notre responsabilité, être des canaux de sa grâce. et Romy pourra grandir dans sa présence. Alors je vous invite à venir, Laurent et Kim, si vous voulez bien, avec la petite Romy. Vous allez nous adresser quelques mots. Je vais prier ensuite pour Romy. Et puis on conclura ce petit moment avec un très beau chant que j'ai redécouvert grâce à toi, d'un dessin animé extraordinaire qui s'appelle Le Roi Lion. Et le titre, c'est « Il vit en toi ». Mais avant cela, on vous donne la parole. Je ne sais pas qui de vous deux. Vas-y.
Bonjour, merci. Merci. On est très, très heureux d'être là aujourd'hui. C'était un moment important pour nous et qui nous a semblé faire sens quand on est devenus parents. Et on voudrait te remercier Philippe pour l'accompagnement et la bienveillance. Et merci à notre famille qui est là aujourd'hui. Ça nous touche que vous soyez tous présents. Et puis merci à Romy de nous remplir de bonheur et de joie depuis qu'elle est là. Tu veux dire quelque chose ?
Non, vas-y.
Et voilà. Et merci pour tout.
Est-ce que tu veux juste nous dire comment tu as pris contact avec moi, avec nous, par quel biais ? Bah, je trouve qu'il y a une très jolie histoire et
tu as la liberté. D'habitude, je regarde plus souvent le culte avec ma nanée en streaming. Et on aime beaucoup avoir l'accès depuis la maison à ce moment de culte. Et c'est comme ça ensuite que j'ai pris contact avec toi et puis qu'on a commencé une discussion pour ça.
Voilà. Merci. Merci. Laurent, tu voulais prendre la parole ? Elle a tout dit, super. Si vous me prêtez quelques instants, Romy, j'aimerais pouvoir la présenter à Dieu, prier pour elle. Regardez comme elle est belle. Vous allez dire, avec les parents qu'elle a, c'est normal, mais quand même, il y a encore, il y a du taf, hein. Regardez comme elle est belle. On va prier pour elle. Vous voulez bien ? Et je vous laisserai ajouter votre amen à notre prière. Seigneur notre Dieu, avec Romy dans les bras, c'est une vie précieuse que nous te présentons. Tu l'as voulu, Romy. Elle est magnifique, c'est un trésor, bien sûr, pour ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Mais pour toi, plus encore, tu y tiens. Nous croyons que tu as des plans de bonheur et d'espérance pour elle. Et nous te prions de les déployer dans sa vie. Nous te prions de veiller sur sa vie. Nous te prions de la protéger, de la tirer à toi, de la sauver et de lui donner de belles et grandes joies dans sa vie. Nous te remercions pour ce trésor précieux. Nous te prions d'en faire une femme de valeur comme il y en a tant dans ta parole et dans le monde. Merci d'accorder à Laurent et Kim toutes les ressources nécessaires pour l'éducation, pour l'ouverture, pour l'amour, pour la fidélité, pour la liberté. Seigneur, accorde-leur ces ressources et renouvelle-les-leur au fil de la route. Nous les recommandons, ainsi que Romy et toute la famille, à ta grâce et à ta bonté qui ne manqueront pas de se déployer. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous la rends. Elle est à vous pour quelques années encore. Ça va aller, Laurent ? Elle est trop magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous écoutons ce titre.
Lui est l'esprit de la vie. T'appelle Mania. Ubu kose mo koko. Rien n'est trop pour toi. Tu vas
grâce et tu y envoies. Oh, 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 tu crois.
C'est bon, je suis trop loin. Voilà. Okay. Oui, que ce roi qui vit en nous, hein, c'est aussi un ami fidèle et tendre. Et pour ce moment de louange, nous allons commencer par ce chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Alors, je crois que ce soit dans les défis de l'éducation d'un enfant ou dans notre vie quotidienne, pour chacun de nous, nous pouvons compter sur lui. Quel ami fidèle et tendre.
Nous entoure de ses bras. nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Que l'homme est fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
Cet ami fidèle, il vient aussi relever les faibles, où qu'ils soient, même jusqu'au-delà des océans.
Thank you.
vient nous relever, mais il nous parle aussi dans sa parole. Et nous avons tout intérêt à écouter ce qu'il nous dit et le mettre en pratique. Parle-nous.
Vous allez avoir le moment préparé pour vous, Piccolo Bello, par Chantal ce matin, c'est juste ?
Et Anaïs.
Laïs. Anaïs, ouais. Super. Alors les enfants, on vous laisse rejoindre vos groupes avec Chantal et Laïs. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre engagement considérable cette saison encore. Ah ouais, le caté, il reste. Enfin, c'est possible en tout cas. Slido 128 51 51. Le Slido, c'est cette fameuse appli que nous utilisons maintenant depuis quelques semaines, que vous pouvez utiliser en cours de prédication pour poser des questions sur le sujet du jour. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui est donnée. Et puis s'il y a des questions, à la fin de la prédication, on prend quelques instants pour essayer d'y répondre. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est qu'être croyant? À quoi reconnaît-on un croyant, une croyante? Pour nous aider à répondre à cette question, qu'est-ce qu'être croyant? Jésus raconte une histoire. Il aime bien les histoires. Il raconte une histoire qui met en scène deux personnes. Deux personnes qui vont prier, donc qui font acte de foi. Et cela devrait nous aider à mieux comprendre ce qu'est être croyant, croyante, en réfléchissant à ce que n'est pas être croyant, croyante. Et c'est Ayana et Matteo qui vont venir lire pour nous le texte biblique que vous trouvez dans l'Évangile selon Matthieu, selon Luc, pardon, au chapitre 18 et les versets 9 à 17.
Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres.
Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié de moi qui suis un pécheur. »
« Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Des personnes amenaient à Jésus aussi les nourrissons pour qu'il les touche. En voyant cela, les disciples lui firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le déclare, c'est la vérité. » Celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant n'y entrera pas.
Merci Matteo et Ayana. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le rédacteur de l'évangile de Luc nous dit que cette parabole s'adresse à ceux qui pensent être justes et qui pourtant n'ont que du mépris ou de la condescendance pour les autres. Et la fin de la parabole indique que ce n'est pas lui qui, au bout du compte, rentre chez lui justifié. Quel est le problème avec le pharisien ? Le religieux de service, le fin théologien, l'homme expérimenté de la parole de Dieu, du peuple de Dieu, qui a des kilomètres au compteur. Quel est son problème? Son problème, c'est l'orgueil. Nous voyons dans ce texte que le pharisien a une très haute idée de lui-même. Et c'est manifestement la seule idée qu'il a. Une très haute idée de lui-même. Le rédacteur, dans le texte grec, nous montre bien ce qui ne va pas chez cet homme. Et c'est assez bien rendu en français. Il prie debout, et le rédacteur précise qu'il est debout vers lui-même. Autrement dit, sa personne tout entière est orientée vers elle-même. C'est une manière simple de dire que le pharisien se suffit à lui-même. Il est son alpha et son oméga. Au lieu de se tenir face à Dieu pour prier, il se tient face à lui-même. Son problème, c'est l'orgueil. Alors, on est d'accord, hein, l'introspection, c'est une dimension importante de la vie spirituelle. Mais si introspection il y a, elle se fait devant Dieu, pas devant soi. Elle se fait devant Dieu. Et humblement, sans trompette, sans feu d'artifice, sans tape à l'œil, devant Dieu. C'est parce que le croyant se tient devant Dieu et non pas devant soi qu'il va ouvrir son existence à plus grand que soi, à un amour plus inconditionnel, plus universel que le sien. Au lieu de ruminer ce qu'il a en lui, le croyant s'ouvre à Dieu pour sortir de ses schémas de pensée toujours limités, toujours insuffisants, bien trop égoïstes parce que narcissiques. Face à Dieu, l'homme prend sa juste mesure. N'ayant que lui comme point de référence, tourné vers lui, absorbé par lui, le pharisien en devient méprisant. Parce que l'orgueil conduit au mépris. Verset 11. Le pharisien instrumentalise un péager, un collecteur d'impôts, un collabo des Romains, en faisant un faire-valoir. Si nous prions en remerciant Dieu de ne pas être comme les non-croyants, ou de ne pas être comme les membres des autres églises, ou de ne pas être comme les gens des autres confessions, alors nous sommes comme ce pharisien, replié sur lui, sur sa suffisance. Cette maladie spirituelle, c'est le repli, c'est l'incurvation, c'est l'égocentrisme. Comme Caïn, vous savez, Caïn qui se replie sur lui-même et qui ne veut rien entendre de l'importance qu'ont les autres aux yeux de Dieu, à commencer par Abel, son propre frère en humanité, et qui le tue. Parce que le repli finit toujours par le mépris. Le collecteur d'impôts maintenant, collabo de l'occupant romain, pas un copain à moi, a priori. Lui, pourtant, il va rentrer chez lui. Et le texte nous dit qu'il va rentrer chez lui justifié, pardonné, accepté, reconnu juste. Et sa prière à lui, elle est diamétralement opposée à celle du pharisien. Que fait le péager ? Ben, il s'excuse de demander pardon. Il s'excuse de n'être que lui-même. Ce collecteur d'impôts n'a pas seulement honte de lui, mais il a honte d'avoir honte. Et là, il demande à Dieu de se réconcilier avec lui. La prière du collecteur d'impôts, elle est diamétralement opposée à celle du pharisien dans les mots, mais pas nécessairement dans son attitude corporelle. Le texte nous dit que le péager n'ose pas lever les yeux vers le ciel, c'est-à-dire symboliquement vers Dieu. Ce qui signifie que lui aussi, il a de la peine à se tenir face à Dieu. Il est plutôt du genre à regarder le bout de ses chaussures. Lui aussi, il est replié sur soi. Certes, ce n'est pas par excès de suffisance, mais par excès d'insuffisance, par une dévalorisation de soi radicale. Dire qu'il retourne chez lui justifié, c'est dire que la personne qui est dans une attitude d'humilité est capable d'accueillir un autre point de vue que le sien. Un point de vue qui vient le redéfinir. Cet autre point de vue, cette altérité, c'est ce qui nous cueille, mes amis. C'est ce qui nous sort d'un état de misère dans lequel nous sommes que l'ombre de nous-mêmes. Écouter une autre voix que la sienne peut permettre d'entendre que notre dignité, notre valeur est bien plus grande, bien plus haute que ce que nous imaginions. Se voir comme un être humain à part entière dans le regard des autres, c'est ce qui peut changer la vision que nous avons de nous-mêmes. C'est quand je suis faible que je fais bon accueil à l'aide extérieure et que je deviens fort, pour paraphraser l'apôtre Paul. Quand on ne se suffit pas à soi-même, notre dignité personnelle peut pourtant être très élevée. Cet homme, arrivé au bout de lui-même, conscient d'avoir besoin de la grâce de Dieu, il est, nous dit le texte, reconnu juste aux yeux de Dieu. Même si peut-être qu'à ses propres yeux, il a dû continuer à batailler pour laisser surgir la grâce de Dieu dans sa vie. Parce que le misérabilisme peut nous rattraper. La grâce de Dieu, elle est destinée aux pécheurs. Pas la version aseptisée et dominicale du péché, mais celle qui détruit des vies, des familles, des cœurs. La grâce de Dieu, elle est pour les accros au sexe, qui recherchent l'intimité dans tous les mauvais endroits. Elle s'adresse aux accros du shopping, qui croulent sous les dettes, aux maniaques du contrôle, qui étouffent les gens qu'ils aiment, aux adultères, qui ont fait exploser leur mariage. Elle s'adresse aux commères qui répondent du poison à chaque mot, aux alcooliques qui n'arrivent pas à se passer de la bouteille, aux menteurs qui racontent des histoires si serrées qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. La grâce de Dieu, elle s'adresse aux narcissiques qui n'arrivent pas à regarder plus loin que leur propre reflet, et aux égoïstes qui prennent bien plus qu'ils ne donnent. Elle s'adresse aux colériques, aux arrogants, à ceux qui sans cesse rejettent la faute sur autrui et qui refusent d'assumer leurs propres erreurs. La grâce de Dieu, elle est pour vous et elle est pour moi. Et elle est pour toutes les personnes déchues qui échouent, parce que les personnes déchues qui échouent sont tout ce qui existe sur la terre. Nous portons nos morceaux brisés en espérant que personne ne verra le gâchis que nous sommes. Mais la grâce de Dieu, elle, ne détourne pas le regard. Elle regarde droit dans les yeux de nos échecs et dit « Toi, tu es aimé de toute façon ». Tu as tellement de valeur. La grâce de Dieu, elle n'excuse pas le désordre, mais elle le pardonne. Elle l'absout. Elle le rachète, elle l'absorbe. Elle nous ramasse, elle nous dépoussière, elle nous rappelle. Tu n'es pas allé trop loin. Tu n'as pas à avoir honte. La grâce de Dieu, elle est pour les pécheurs. Uniquement pour les pécheurs. Comme ce collecteur d'impôts. Arrivé au bout de lui-même et finalement rendu juste par Dieu. Et l'évangile de Luc continue, finit avec ces personnes qui veulent amener des bébés vers Jésus. Et ça, étonnamment, c'est pas du goût des disciples. Ben ouais, les enfants, ça fait du bruit, ça sent pas toujours bon, ça accapare l'attention. Les disciples, ils sont à l'image de ceux qui, dans une communauté ou dans un pays, aimeraient bien pouvoir fermer la porte derrière eux. Il y a une forme d'égoïsme et d'autosuffisance. Il y a un verbe grec ici, epitimao, qui décrit l'action des disciples envers ces gens qui veulent amener des nourrissons, des bébés à Jésus. Epitimao. Ils leur font des reproches. Luc l'utilise qu'une autre fois, dans tout son évangile, au chapitre précédent, pour dire que ce verbe s'applique quand notre frère a péché et qu'il faut le reprendre ou le corriger. C'est le même verbe. Ce verbe, il irait bien à ceux qui passent leur temps à corriger les autres, à rectifier leurs propos, à les rendre plus conformes à ce qu'eux pensent, ou qu'ils n'écoutent pas en pensant que tout commence et tout finit avec eux. C'est un verbe qui va très bien à ceux qui veulent imposer leur dogme, leur point de vue. Après le croyant orgueilleux, le croyant honteux, voilà donc le croyant donneur de leçons, qui tient plus du videur de boîte de nuit que du témoin de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est la police de la pensée qui veille à ce que rien ne dépasse. Les disciples, là, ils font de leur mieux pour décourager quiconque de rejoindre le groupe de Jésus. Ils pratiquent le protectionnisme. Là, c'est chez nous, on n'entre pas n'importe comment. Alors, au bout du compte, pour qui est le royaume de Dieu ? Ben pour la quatrième catégorie de personnes, celles qui se sentent appelées à aller vers le Christ. Et ce sont des nourrissons qui sont amenés à Jésus. Pas des enfants, hein. Des fois nos Bibles traduisent enfants, là le grec il est super clair, des bébés, des nourrissons. Le nourrisson, il met en évidence qu'il est question de grâce de Dieu ici. Parce que le bébé, le nourrisson, remis, c'est le moins capable de tous les personnages qui ont défilé jusque-là. Hein. Les nourrissons, ils n'ont rien fait, rien demandé. Pour obtenir quoi que ce soit comme faveur, ils se laissent porter. Ils ne sont pas capables de donner quoi que ce soit. Mais c'est de leur côté qu'est la vérité que Jésus essaie de révéler à ses contemporains. Jésus élargit aux enfants et à tous ceux qui leur sont semblables. Qu'est-ce qui les caractérise dans cet épisode ? C'est qu'ils vont en direction du Christ, contrairement à tous les autres. Les autres, ils sont repliés sur eux, mais les nourrissons, nous dit le texte, ils vont à Christ. C'est ça la différence. L'orgueilleux, il reste sur son quant à soi. Celui qui est honteux, il n'ose pas tendre vers Dieu, même si Dieu tend vers lui. Les disciples y mettent des barrières pour empêcher d'aller vers le Christ. Tout est dans leur repli. Mais les nourrissons, eux, ils vont vers Jésus. Sans orgueil, sans honte, sans calcul. Juste la confiance. Romy, elle ne pense pas un instant que Laurent va la lâcher. Elle a une confiance absolue en fermant les yeux qu'elle ne va pas tomber, qu'elle est gardée, qu'elle est protégée. Alors bien sûr, les nourrissons de notre texte, ils vont vers Jésus dans des bras d'adultes. C'est des adultes qui les portent vers Jésus. Ils n'y vont pas de leur propre chef, c'est des nourrissons. Mais cet aspect, il compte aussi dans la vie. On n'est jamais mis en route que par un autre que soi. Des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui nous font découvrir le monde quand on est enfant. Des contemporains qui nous font entendre des aspects de la vie qui jusque-là nous avaient échappé. Quelqu'un qui enfin nous accueille, nous écoute, nous parle, nous comprend, nous témoigne de la grâce de Dieu, qui nous ouvre de nouvelles perspectives. C'est ces gens-là qui nous mettent en route, pas les gens repliés sur eux. Aller vers Jésus, c'est ne pas s'en tenir à son orgueil ou à ses préjugés ou à sa suffisance. C'est ne pas s'en tenir à une situation donnée en allant vers Jésus. Ces nourrissons sont tendus vers un autre contexte que le seul contexte familial. Ils vont avoir d'autres avis que leur famille biologique. Ces enfants vont avoir un autre horizon que ce qu'ils ont chez eux. Ils commencent déjà à échapper à la mainmise des parents, des proches, de leurs semblables, puis des convenances. Le royaume de Dieu, il est pour ceux et celles qui leur sont semblables. Ceux qui ne font pas le choix de rester enfermés dans leur certitude, dans leur confort, dans leurs habitudes. Je conclus. Être croyant, ce n'est ni penser qu'on a tout, ni penser qu'on n'a rien, ni penser que les autres ne doivent rien obtenir. Être croyant, selon ces versets, c'est avoir confiance dans le Christ. C'est dire oui à tout ce qu'il incarne, à savoir que la vie est gracieuse, que la vie est belle, que la vie recèle de la grâce de Dieu, qu'elle en est saturée pour peu qu'on observe un peu. C'est dire oui à la grâce qui transcende notre condition tellement finie, nos points de vue étriqués, cette grâce qui nous rend plus grands, plus grandes que nous-mêmes. C'est dire oui à la grâce de Dieu qui est inconditionnelle et qui ne s'inquiète pas de notre dignité ou de notre sentiment d'indignité, car la grâce exprime le fait que nous sommes dignes de nous tenir sur la terre des humains sans condition. Être croyant, c'est dire oui à la grâce qui est radicale, qui est universelle, qui dépasse tous les discours, toutes les chapelles, tous les partis, qui concerne tout le monde, sans exception, qu'il soit ou non affilié à une religion. Le Christ accueille généreusement. Venez à lui. Venez à lui. Venez à lui. Vous ne serez pas déçus, pas un instant. Être croyant, être croyante, selon ces versets, c'est un mouvement hors de nous-mêmes, en direction de cette grâce qui nous précède, qui est là maintenant et qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Amen. Temps pour le rideau s'il y a lieu. J'ai là trois très bonnes questions pour lesquelles vous votez en masse. Une qui me sera plus difficile, mais j'ai déjà en tout cas prendre les deux premières et vous citer la troisième. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance comme un nourrisson quand on peut répondre nous-mêmes à tous nos propres besoins? Et je pense que c'est le cas dans le beau pays où nous habitons, dans l'époque, la période où nous habitons. Tout est possible, en gros, ça va. Moi, j'ai l'impression qu'il faut voir large, ouvrir beaucoup plus grand que les seules circonstances présentes et ouvrir beaucoup plus grand que le seul matériel. J'ai l'impression qu'on a besoin de redécouvrir la dépendance. Et pour ça, cultiver un peu d'humilité et dire « je ne me suffis pas à moi, j'ai besoin de plus grand que moi, je me jette dans ses bras, Je lui fais confiance pour aujourd'hui, mais je lui fais confiance pour demain et après-demain, y compris le soir de la vie. Surtout le soir de la vie. Pour moi, il y a une redécouverte de la dépendance. Et peut-être que cette dépendance envers Dieu, qu'on a des fois de la peine à considérer parce qu'on s'en sort bien, on pourrait la redécouvrir aussi en dépendant un peu plus les uns des autres, en s'ouvrant un peu plus les uns aux autres, en s'ouvrant un peu plus l'esprit, peut-être une fois voyager dans un pays où les évidences que nous avons ne sont pas les leurs, mesurer nos privilèges, être perméable aux souffrances du monde. Peut-être que c'est ça, peut-être. Une deuxième question, penses-tu qu'il y a des éléments pharisiaques dans nos églises évangéliques aujourd'hui dont on ne se rend pas ou plus forcément compte? Non, il n'y en a pas. Vous pouvez y aller, c'est bon, nous on n'est pas pharisiens. Les pharisiens, vous savez, c'est les autres. Hein. Mais bien sûr, on est pétri de ça. Pourquoi? Parce qu'on vient d'une tradition religieuse, comme les pharisiens de leur temps. Ils s'inscrivaient dans une tradition religieuse. Ce n'étaient pas des gens malhonnêtes, ils étaient alignés. Ils connaissaient leur Bible infiniment mieux que vous et moi, ou que la plupart d'entre nous. Ils aimaient Dieu. Ils voulaient sauvegarder Dieu, mais ils n'ont pas compris la nouvelle donne qu'est venue apporter Jésus-Christ. Et la nouvelle donne qu'est venue apporter Jésus-Christ, c'est la grâce qui explose tout. La loi, les comparaisons, la façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous sommes souvent, je suis souvent, un pharisien. Parce que je suis rassuré par un système que je comprends et des mots, des phrases que je comprends. La grâce, je ne la comprends pas. Je ne l'ai déjà pas comprise pour moi. J'ai encore plus de peine à la comprendre pour les autres. Mais je l'accueille. Alors oui, hélas, il y a des éléments pharisianisants dans nos églises. Et nous devons le dire et essayer de nous rendre compte. Et quand ils sont là, leur tordre le cou. Avec humilité, avec bienveillance, parfois avec colère. Jésus, parfois, s'est montré colérique avec les pharisiens. Jamais avec les autres, hein. Ceux du dehors, jamais. Les gros pécheurs, tout ça, ceux nous on dirait « non, t'es bien gentil, mais va voir ailleurs », lui, jamais. Jésus, jamais. Les pharisiens, oui, parfois, il s'est fâché. Pas toujours. Parfois, il leur dit simplement « mais est-ce que vous n'avez pas lu ?» Et c'est la troisième question. Comment on deal avec le pharisianisme dans nos églises ? Ben je crois qu'on doit se confronter à la grâce et revenir aux Écritures, à Jésus. Parce que les Écritures, c'est Jésus. Je pourrais me passer de la Bible à quelque part. C'est embêtant, hein ? Mais je ne pourrais pas me passer de Jésus. Parce que le dernier mot de Dieu, c'est Jésus. Et donc, je dois regarder vers Jésus pour essayer de tordre le cou au pharisianisme dans mon cœur, et dans l'Église, quand il se répand et qu'il fait du mal. Que le Seigneur nous soit en aide. Merci pour votre attention, Thierry. Je crois qu'on arrive à la conclusion de notre culte.
Voilà, merci Philippe. On y est presque. On aimerait juste encore prendre une offrande pour les besoins de notre Église. On a parlé de reconnaissance au début du culte, juste là on parlait de dépendance. Eh bien, donner un peu notre argent à Dieu, c'est aussi faire preuve de reconnaissance et c'est aussi lui montrer notre dépendance, dire que toutes choses viennent de lui, que sans lui nous ne sommes rien et qu'on lui fait confiance pour tout cela. Donc merci d'avance pour votre offrande, on va passer un chant pendant ce temps. Je vous invite aussi à l'écouter, à le prier alors qu'il passe, à ne pas être passif. Et puis, sentez-vous vraiment libre de donner ou non durant ce temps. Merci.
Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts.
Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garder mon cœur. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée. Grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être changé par sa puissance. Jésus, je veux te connaître.
On vous rappelle que tout à l'heure, il y a un apéro, ne le manquez pas. Dimanche prochain, on n'aura pas de culte ici, on sera au CEPOM pour le premier culte des cultes de l'été. Donc, n'allez pas au mauvais endroit, à 10h, et c'est Philippe qui sera aussi à la prédication là-bas. Et puis, Philippe, je te donne la parole pour la bénédiction.
Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction, si vous le pouvez. Que la grâce qui suffit à tout, la miséricorde qui dure à jamais, la paix qui dépasse l'entendement, la joie pleine de gloire et l'espoir qui ne s'éteint jamais, vous garde en Jésus-Christ jusqu'à ce que le jour se lève encore et que les ombres s'enfuient et que nous le voyons face à face. Allez dans la paix, dans la joie. Je vous souhaite un très beau dimanche. Saluez Laurent, Kim et Romy qui a dormi. Merci beaucoup pour l'apéritif que vous nous offrez. Très bon vin de la cave de Genève. N'hésitez pas à passer à côté pour la prochaine étape. Bon dimanche à chacun.